Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
10h07 sur RMC, vous écoutez les grandes gueules du sport, c'est jusqu'à midi, Marion Bartoli, Simon Dutin, Fred Le Canu, ce matin, les grandes gueules du sport qui vous accompagnent, vous le savez, tous les week-ends de l'été, même pendant vos vacances, et même si vous travaillez, bien sûr, n'hésitez pas à retrouver le podcast des GG, notre débat de la première heure autour du Tour de France, décevant ou non, et puis dans une heure, les GG vont s'intéresser au cas Léon Marchand, qui s'apprête à disputer les championnats du monde de natation, vous entendrez le nageur qui s'est exprimé tout à l'heure à Singapour, et on vous pose cette question, peut-il être encore plus fort? Ça sera dans une heure. Dans 30 minutes, la punchline des GG signée cette semaine, Roberto De Zerbi, qui explique que OM PSG n'est pas un classique pour lui. L'entraîneur de l'OM a-t-il raison de banaliser ce match? Ce sera dans un instant. Mais d'abord, qu'est-ce que vous faisiez il y a un an à cette heure-là? Le bras de fer des GG. Le bras de fer de GG, c'est tout de suite.
RMC, le bras de fer GG.
Marie-Josée Pérec et Teddy Riner, grand sourire.
Moment solennel.
Qui va allumer cette vasque et qui va bien sûr faire briller la flamme dans le jardin des Tuileries. C'est fait. La flamme olympique est en train de décoller à bord d'une montgolfière. Dans le ciel de Paris, depuis le jardin des Tuileries, c'est incroyable.
Ça me donne la chair de poule.
Ils vont le faire les Français, ils vont le faire les Français. Le triplé français, le triplé français. Joris Donnet, Sylvain André, Romain Mailleux. Le triplé de l'équipe de France de PMI.
Et oui, pour l'équipe de France. Et donc médaille pour le ping français. C'est la deuxième médaille de bronze.
C'est un champion
d'Étienne. Allez, on t'y gagne.
Tout le monde pousse, allez, le premier ball des Français, laissez d'Antoine Dupont, encore lui, c'est bon, 27,
la France est championne olympique de rugby à 7. Wouh!
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer.
Je suis sûr que Marion Bartoli est en train de pleurer là.
C'est pas faux.
Les émotions, voilà. C'était il y a un an. À cette heure-là, c'était l'heure d'ailleurs des derniers préparatifs sur la scène avant la cérémonie d'ouverture. Les athlètes qui s'apprêtaient à vivre un des moments les plus importants de leur carrière, ces Jeux Olympiques. Les fans de sport qui attendaient cet événement avec impatience. Certains Parisiens avaient quand même choisi de quitter la capitale. Certains touristes affluaient à Paris. Il y a un an, c'était donc le début de ces Jeux Olympiques. Mais un an après, faut-il passer à autre chose? Dans la team, oui. Marion Bartoli, Fred Le Canu. Dans la team, non. Simon Dutin. Grand nostalgique. D'abord, on va accueillir, avant de débattre, Mathéo Rollet de la team RMC Sport. Salut Mathéo.
Salut François, salut les GG, salut à toutes et tous.
Dis-nous, qu'est-ce qui est prévu pour fêter les 1 an des Jeux aujourd'hui?
Et oui, c'était il y a un an, jour pour jour, les yeux du monde rivés sur les bords de Seine et le défilé des athlètes olympiques sous une pluie battante typiquement parisienne. 100 ans qu'on n'avait pas accueilli les JO, alors même un an après, l'heure est encore à la célébration dans la capitale et ses environs. Au programme de cette journée d'anniversaire, la présentation du monument des champions souhaité par la maire de Paris, Anne Hidalgo, est mise en place au Bras-Marie au centre de la ville. À la mi-journée viendra cette fois le temps des officiels avec la prise de parole de Kirsty Coventry, c'est la présidente du comité international olympique, de Marie Barsac, la ministre des Sports, ou encore d'Amélie Oudéa-Castéra et Tony Estanguet. Plusieurs stars des Jeux sont aussi mises à l'honneur. Ça se passe du côté du Grand Palais, là où l'escrime posait ses bagages il y a un an. Enfin, la journée parisienne va s'achever en nostalgie avec le retour des symboles des Jeux en fin d'après-midi. D'abord, du côté de la Courneuve en Seine-Saint-Denis avec la présentation des anneaux olympiques en physique cette fois, après ceux imprimés sur une toile suspendue à la Tour Eiffel cette semaine. Et puis à 22h, le clou du spectacle avec le lever de la vase au jardin des Tuileries. De quoi se remémorer cette période des Jeux, celle qui a été pour beaucoup une parenthèse enchantée. Sans oublier les Jeux Paralympiques, François, qui fêteront à leur tour leur premier anniversaire le 28 août prochain.
Et oui, on n'en a pas fini de parler de ces Jeux Olympiques et de ces Jeux Paralympiques. Merci beaucoup Mathéo. À bientôt sur RMC. Le point sur le sondage pour ce bras de fer des grandes gueules du sport. Paris 2024, un an après, faut-il passer à autre chose? La team, oui, largement en tête, 78%, Fred Le Canu, Marion Bartoli. La team, non, 22%, Simon Dutin. Surpris, non enfin, parce que...
Non, je suis pas surpris, non.
Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Simon Dutin. Je ne peux pas vous répondre pour le moment. Je c'est à moi d'y aller, du coup.
Bah parce oui, puisque tu voilà, défendre le nom.
La petite part,
oui, mais j'ai fait fichez-nous la paix, voilà, c'est ça que j'ai envie de vous répondre. Parce qu'on, je ne la comprends même pas, votre question. Faut-il passer à autre chose? Mais de quoi parle-t-on, en fait? C'est quoi? Vous voulez oublier tous les grands moments qu'on a... qu'on a vécu, tu demandais, t'introduis le truc en disant qu'est-ce que vous faisiez il y a un an. Eh bien, il y a un an, justement, j'étais un triste cire, prêt à dégommer ces Jeux Olympiques que j'annonçais comme un carnage absolu, un désastre industriel, un fiasco total. J'espérais que cette cérémonie d'ouverture irait jusqu'à son terme sans problème de sécurité, mais il faisait pas beau, il se faisait déjà, ça commence bien, regardez, ils vont droit dans le mur. J'ai rarement vécu un retournement de veste pareil. J'ai été ahuri, j'ai revu, je sais pas, des dizaines de fois moi sur des plateformes de streaming pour pas les noter, l'ouverture de ces jeux, le drapeau français en fumigène sur le pont d'Austerlitz, c'était absolument prodigieux quand j'ai vu ça. J'ai vu cette ouverture, je me suis dit ah ouais, il y a peut-être quelque chose là, peut-être qu'ils vont nous faire. J'en ai des frissons d'en parler. Je ne croyais pas à l'utilisation de la ville de Paris, de ses monuments, de ce qui fait que Paris est connu dans le monde entier pour mettre en valeur les... Je pensais que tout cela était factice, je pensais que ça ne marcherait pas, je ne croyais pas au record de médailles, je ne croyais pas à l'effet des Jeux à domicile. J'en ai des frissons, rien que d'en parler. On a eu la chance de travailler ensemble, François, grâce à RMC, sur cet événement. C'est... voilà, je pense les plus beaux jeux de l'histoire moderne des Jeux Olympiques. Je pense que on attendra peut-être très longtemps pour voir une édition aussi réussie. Le monde entier à l'unisson a partagé notre enthousiasme. C'est pas du chauvinisme. Qu'est-ce qui se cache derrière votre question? Il faudrait qu'on oublie tous ces moments qui nourrissent l'imaginaire. On a suffisamment de problèmes, d'angoisse, de préoccupations. On l'a vu, le monde va pas si bien que ça, la société va pas si bien que ça.
Justement.
Et pourquoi? Justement, laisse-moi terminer.
Justement,
pourquoi
Simon.
On se priverait de quelque chose qui nourrit notre imaginaire, qui nous donne du bonheur et qui nous donne le sourire.
Ah, moi, j'ai pleuré là.
Je passais tous les soirs. Demain, il y a l'étape du Tour de France qui va passer rue Lepic. On a tous en mémoire ces images. Moi, c'est le quartier dans lequel j'habite depuis plusieurs années. Je vais avoir la chance de pouvoir suivre la course. Pourquoi est-ce que vous voudriez que j'arrête de penser à ces Jeux Olympiques? Pourquoi? Alors j'entends l'héritage, les fausses promesses, le passeport qui va être rédigé, machin. Il y a quand même des équipements, plus de 6000 équipements sportifs qui ont vu le jour grâce aux Jeux Olympiques. Et il y a quand même ce moment de communion nationale. Demande à tous les gens qui ont quitté Paris l'an dernier en juillet parce qu'ils se disaient ça va être un massacre. Ils regrettent. Ils savent pas comment. Ils pourront jamais rattraper ce qu'ils ont perdu. Je ne comprends pas pourquoi on voudrait... Au nom de quoi on voudrait dire passons à autre chose et
mais
oublions
parce que, mais pas, non, pas oublions, en fait, passons à la suite du programme. La suite du programme, oui, c'est quoi? C'est le but de Coubertin au départ. Ou le but de celui qui a inventé le judo, c'est pareil, c'est Jigoro Kano. C'est d'améliorer l'homme avec un grand H et la société. C'est pour ça qu'on fait du sport. Et c'est pour ça qu'on fait les Jeux Olympiques. Donc une fois qu'on a dit ça, t'as raison Simon, c'était un souvenir extraordinaire. Moi j'ai eu le privilège d'être au Club France et de travailler et de commenter les Jeux Olympiques en judo et notamment la finale des Jeux qui était une série Netflix avec Teddy Riner, double tirage au sort. Inoubliable, dans notre chair incarnée à tout jamais, c'est voilà. Mais maintenant, on fait quoi? Et maintenant, tu vois, j'ai un peu, moi, l'impression d'être comme la famille, comme les enfants de Hallyday, j'attends l'héritage. Tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai envie de voir comment concrètement tout ce qu'on a vécu, le vivre ensemble, on continue à le faire sur une société qu'on a besoin. Moi, je me rappelle le matin quand j'allais, tu vois, au Club France, je descendais, il y avait une petite barrière, tout le monde attendait le vélo dont tu parles. T'avais le toxico, t'avais le gars qui était en difficulté, t'avais les flics, et tout le monde était là derrière la barrière. Ça n'a pas duré longtemps. Mais comment est-ce qu'on peut continuer à essayer de trouver des solutions pour que justement, il y ait une lutte contre l'obésité? Qu'il y ait une lutte contre l'alcoolisme, qu'il y ait des principes du sport qui soient partagés pour que les gens s'améliorent. Parce que c'est ça le sujet, en fait. Tout ce qu'on a montré, tout ce que t'as aimé, c'est fait par des gens extraordinaire avec des principes qui sont au service des gens ordinaires. Comment est-ce que tu peux passer des messages pour que le hippon qui a été mis, pour que Riner il lâche pas le morceau, que toi quand t'es en difficulté on lâche pas le morceau. Aujourd'hui sur l'obésité, c'est un sujet qui me parle. Moi j'étais en situation d'obésité. À l'école quand j'étais gamin, la dame elle a dit Monsieur Le Canu, oui, vous êtes en surpoids. Bah oui, j'avais un miroir pour ça. Aujourd'hui, les principes du judo m'ont aidé à me remettre en question. Comment est-ce qu'on partage ça avec les gamins? Comment est-ce qu'on aide les clubs? Comment est-ce qu'on tend la main à toutes les personnes qui ont besoin avec des principes qui sont accessibles? Aujourd'hui, c'est la guerre. C'est les gens qui se regardent sur les réseaux sociaux qui sont tout seuls. Le sport, c'est le vivre ensemble. Le sport, c'est permettre à des gens qui se connaissent pas, dans un cadre, de se respecter. Comment est-ce qu'on le développe concrètement? Comment est-ce qu'on permet à demain de vivre meilleur avec un truc qui a fonctionné? Là, tout le monde se dit, voilà, le conflit, les machins, les bidules, comment? On a vécu les Jeux Olympiques, il n'y a pas eu de problème. On a mis tous les moyens pour le faire, ça a été une réussite. Comment est-ce qu'on fait perdurer ces éléments-là? Moi, c'est ça la question.
Bon, bah, donc, ça veut dire qu'il veut surfer sur les Jeux, donc faire tout sauf passer à autre chose.
Puisque, passer à autre chose dans le plan. Toi, tu es sur le souvenir, moi, je suis sur l'avenir. Comment est-ce que ce que tu
faut-il
as vécu.
Passer à autre chose, justement,
oui, dans la suite du
vivre,
plan.
Il faut faire vivre cet héritage tout en apportant cette mesure importante, c'est que le sport a bon dos, les Jeux, ils ont bon dos, et moi, je me bats suffisamment, et c'est pas la réussite des Jeux de Paris qui va quand même complètement me faire changer d'avis. Le narratif sur l'universalisme du sport, le pouvoir rassembleur du sport, tout ça.
Bah c'est ce qu'on va te servir là pour fêter les 1 an.
Hein. Mais bien, non, mais que au niveau politique, on s'en sert et tout. Moi, ça me surprend pas non plus. Mais encore une fois, doucement, les Jeux Olympiques, c'est une grosse machine à cash. C'est beaucoup d'argent. Si on s'en tire un petit peu mieux qu'à Athènes, où certains sites olympiques sont devenus des tombeaux, qui avec des mauvaises herbes qui pousse et aucune utilisation. Je veux dire, il faut encore une fois ne pas être trop ambitieux dans ce qu'on met sous le couvert de l'héritage des Jeux Olympiques.
J'ai l'impression qu'on n'a pas besoin des Jeux Olympiques pour mal gérer l'argent.
Mais encore une fois, terminer, je le disais la semaine dernière, si on a réussi à se faire croire chercher notre steak haché au tir à l'arc, qu'on allait aller bosser en pirogue sur la Seine.
Ah, moi, j'aimerais bien.
Qu'on allait partir en vacances en footing au lieu de prendre sa bagnole. C'est mettre trop d'espoir dans ce qu'on considère comme l'héritage.
L'héritage, c'est juste que moi j'ai vécu tous les jours au Club France. C'est des gens qui connaissaient pas un sport, qui l'expliquaient à quelqu'un qui le connaissait encore moins. C'est des gens qui partageaient un bout de sandwich, qui se regardaient, qui n'étaient pas en défiance et qui n'avaient pas peur de prendre une tarte dans la tronche. Qui pouvaient se parler, qui pouvaient échanger autour d'un sujet universel qui était le sport. Il y avait eu un vrai vivre ensemble. Il y a eu un moment de suspension qui était unique.
Tout à fait.
C'est juste, je te dis pas qu'il faut sauver la vie des gens. Je dis juste qu'il faut les vivre ensemble. Qui leur permettent de continuer à faire un truc commun.
Alors, Marion.
Oui, je vais y aller quand même.
Bah oui, vas-y, va arbitrer quand même ce duel au sommet. Mais voilà, on attend quand même ton point de vue sur cette question. Est-ce qu'il faut tourner la page?
Ma réponse, effectivement, elle n'est pas du tout liée au fait que j'ai passé, comme tout le monde, je pense, comme tous les Français, on a été extrêmement fiers de ces Jeux Olympiques. On a tous vibré. J'étais la première à commenter cette cérémonie d'ouverture, à être en pleurs devant Céline Dion sur la Tour Eiffel. Je ne vais pas remettre en question toutes les émotions que j'ai vécues, bien évidemment. Mais quand on voit et on lit la nouvelle baisse annoncée de 17,6% du budget des sports en 2026, qu'on se rend compte de toutes les difficultés aujourd'hui qui continuent à être le cas. Encore une fois, il y a le sport de haut niveau, bien sûr, les athlètes olympiques, mais il y a le sport au quotidien. Et je pense qu'il faut faire quand même une différence qui est majeure entre les deux. Bien sûr qu'on continue à avoir des athlètes français extrêmement performants. On va parler de Léon Marchand tout à l'heure. Dans tous les sports, on a des athlètes très performants. Mais le sport, ce n'est pas que le sport de très très haut niveau. C'est le sport aussi au quotidien. C'est le sport à l'école. C'est les budgets qui sont investis par l'État. Et on voit très bien là-dessus que malheureusement, à mon grand désarroi, on n'est pas au rendez-vous. Alors moi, je veux bien qu'on tire systématiquement sur la corde de la nostalgie, sur la corde des commémorations et qu'on fasse l'anniversaire 1 et l'anniversaire 5 et l'anniversaire 10. Mais à un moment donné, là où je rejoins totalement Fred, c'est qu'il faut être dans l'action aujourd'hui et sur le développement du sport dans la vie quotidienne des gens et des millions de Français qui n'ont malheureusement pas accès au sport. Pas pour en faire du sport de haut niveau, mais simplement pour améliorer leur quotidien, que ça soit dans le vivre ensemble, que ça soit dans le partage, que ça soit dans les problèmes dus à la sédentarité qui deviennent de plus en plus excessives, notamment chez les jeunes. Et je pense que ça, ce sont des notions qui ont été mal anticipées après les Jeux Olympiques et qu'on s'est simplement satisfait de se dire super, génial, fantastique, on a réussi des Jeux Olympiques absolument fabuleux, on a démontré au monde entier qu'on était capable. Oui, bien sûr, magnifique, génial, j'applaudis des deux mains, bien évidemment. Mais il y a un après, et il y a un après notamment dans le quotidien des gens. Et aujourd'hui, quand on voit encore une fois cette baisse annoncée du budget pour les sports, pour moi, ça me choque profondément. Et je pense que oui, de tirer systématiquement sur la corde de la nostalgie, ça ne fonctionne pas. En tout cas, c'est pas ce que j'attendais.
En tout cas, excusez-moi, mais je veux dire, encore une fois, on peut pas non plus faire les ahuris lorsque le sport fait partie des budgets, des ministères frappés par les besoins d'économie. Nous, on a eu Madame la ministre des Sports,
Marie Barsac,
sur l'antenne de RMC, et on lui a posé la question. En effet, est-ce que vous êtes en colère par cette diminution de budget, ou est-ce que vous considérez que le sport doit lui aussi participer à un effort qui est national et qui concerne énormément? Alors évidemment,
les commémorations, c'est un coût.
J'ai suffisamment, mais moi les commémorations, excusez-moi, mais moi je m'en fiche. Je ne sais pas ce qui est prévu. Et en effet, ça ne me touche pas. Et qu'en effet, il y ait un intérêt politique, évidemment, à essayer de capitaliser, à essayer de récurer ce qui reste comme souvenir des jeux pour en tirer un profit politique. Ça ne m'intéresse pas. J'ai suffisamment allumé les politiques sportives dans ce studio. J'étais pas le plus grand défenseur de l'action de notre précédente ministre des Sports, celle qui était aux manettes il y a un an pour les Jeux. Mais malgré tout, il reste des choses. Et j'espère que, j'ai envie de croire que même sans les Jeux, il y aurait eu les 30 minutes de sport à l'école. Moi, quand j'étais jeune à l'école, Fred, tu sais, il y avait le vieux serpent de mer, tu sais, dans les pays nordiques, l'après-midi, ou en Allemagne, l'après-midi, il y a plus cours, ils font tous du sport l'après-midi. Bon, ouais, à l'époque, on parlait pas encore des Jeux Olympiques. Pourquoi ça n'a jamais vu le jour? Pourquoi ça verrait le jour? Parce qu'il y a eu les Jeux Olympiques. Je pense que.
Parce qu'on nous l'a dit.
C'est avoir mis trop d'espoir et trop de promesses autour d'un événement qui, encore
une fois,
reste un événement.
Moi, je pense que tu te sens trahi.
Je me sens pas trahi, je me sens dévasté d'avoir espéré du fond de mon cœur que ça puisse changer les choses.
Moi, je suis vraiment désolé pour vous que vous ayez mis autant d'espoir.
Mais c'est même pas d'espoir, c'est que les Jeux
allaient pouvoir provoquer changement.
Moi, j'ai pas fait les Jeux en tant qu'athlète, j'étais remplaçant à Athènes. Tout est calculé sur les 4 ans. Déjà, quand il n'y a pas eu les Jeux, tu vois, à Tokyo, pour moi, c'était pas possible. C'est comme si, tu vois, c'était quelque chose de d'ésotérique, mystique. C'est, toi, les Jeux, c'est tous les 4 ans. Quand ça a été décalé, ça m'a déprimé, mais un truc de malade. Ça m'a envoyé. Moi, mes gamins, ils sont tous nés après une année après les Jeux. Je me suis marié après les Jeux, parce qu'à chaque fois, dans notre rythme de vie, c'est les 4 ans, c'est les cycles. Et si tu veux, moi, j'étais persuadé que les Jeux allaient changer cette capacité à la France de percevoir les valeurs du sport. Moi, où je suis dévasté, tu sais quoi? En plus, tu le sais, le sport, c'est la solution à quasiment tout. La santé mentale, le vivre ensemble, la citoyenneté, la lutte contre les incivilités, tous les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui dans la société. Le sport, quel qu'il soit, individuel, collectif, il répond à tout. Et aujourd'hui, on a vu avec les Jeux que c'était la réponse à tout, à la fois pour ceux qui l'ont produit, à la fois pour ceux qui l'ont vécu, et ça n'a rien changé aujourd'hui. Il faut absolument encore faire quelque chose.
Mais d'accord, faisons faire du sport aux gamins tous les après-midi à l'école, au lieu de leur faire faire des maths, du français et du géo, je peux dire que ça va coûter moins cher dans le budget de l'éducation nationale que si tu payes 4 profs par après-midi, si tu payes qu'un prof de sport pour organiser des éperviers géants ou des matchs
regarde ce qui est fait aux États-Unis, comment le sport est mis au cœur d'école depuis plus jeune âge.
Pourquoi on aurait eu besoin des Jeux Olympiques pour rappeler, et là je souscris tout à fait à ce qu'a dit Fred, pour découvrir qu'avec le sport
on l'a prouvé scientifiquement. Moi, je te donne juste une phrase. Quand j'ai commencé le judo, avant le judo, j'étais gros. Je suis rentré dans un club de judo, le prof il m'a regardé dans les yeux et la phrase il m'a dit « Ici, tu ferais un bon poids lourd ». Il n'a pas dit que j'étais gros. Il m'a dit « Tu ferais un bon poids lourd ».
T'as pas un club à me conseiller du coup?
Bah écoute, tu sais quoi, on en reparle après. Ce que je veux juste te dire, c'est que ce mot-là, il a changé ma vie. Moi aujourd'hui, tu te rends compte, je suis aux grandes gueules du sport. Je suis ultra, j'ai une vie extraordinaire. J'étais pas destiné à vivre ça.
Extraordinaire d'être aux grandes gueules du sport.
Non, mais la vie que j'ai, mais je suis sérieux. Marion Bartoli, que je suis admirable. Moi, je connais son palmarès et son parcours. Moi, je vis une vie extraordinaire parce qu'un jour, j'ai ouvert une porte d'un dojo et qu'il y a un prof de judo qui est ceinture noire qui m'a regardé et qui m'a dit. Toi, tu feras un bon poids lourd.
C'est pas parce qu'il y a eu les Jeux Olympiques à Paris.
Mais les Jeux Olympiques l'ont prouvé. Donc les décideurs qui ne font pas quelque chose aujourd'hui, on a tous cette responsabilité-là de faire ouvrir les portes des clubs de sport. Il faut sauver la vie des gens.
Moi, ce que je reproche, c'est qu'on extrait ce narratif et ce mysticisme qu'on ait voulu faire croire que les Jeux allaient entraîner une révolution qui n'a pas lieu. Et moi, je suis pas surpris qu'elle n'ait pas lieu suite à ces Jeux Olympiques. Voilà, c'est tout.
Elle aurait dû avoir lieu.
Voilà. Cyril est avec nous au 32-16. Salut Cyril.
Bonjour.
Bonjour Cyril, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Quelle est toi ta position là-dessus? T'en as marre qu'on te rabâche les oreilles avec les JO ou pas du tout?
Ah, un peu. Je suis passé à côté de la Tour Eiffel ce matin. Je sais pas si vous avez vu l'immondice qu'ils ont mis sur la Tour Eiffel. Mais
qu'est-ce qu'ils ont mis?
Ils ont mis une bâche blanche avec
une
des anneaux.
Bâche avec tes anneaux, ouais.
Mais c'est n'importe quoi. T'en as rien à mettre, quoi.
Oui, bon.
Il n'y a même pas les anneaux paralympiques d'ailleurs. On a encore oublié qu'il y avait eu des paralympiques. Et quand
bah parce qu'il y aura quand même des célébrations en septembre pour les paralympiques.
Ouais, faire des célébrations c'est bien, mais pour la ville de Paris, on voit toujours pas les. Enfin, il n'y a toujours pas d'accessibilité pour les handicapés,
ça, c'est
toujours compliqué.
Complètement.
On a promis beaucoup de choses et on n'a rien vu, et j'entendais ce que vous disiez. Oui, c'est bien, on s'en souviendra des Jeux Olympiques. Puis dans 4 ans, Paris, on s'en souviendra aussi. Tous les 4 ans, c'est toujours bien, sauf ceux de Tokyo où malheureusement il y a eu le Covid, mais comme j'entends. Le budget a diminué. Enfin, aujourd'hui, c'était bien. Enfin, la dernière, c'était bien. On a gagné plein de médailles, mais on fera quoi dans 4 ans? On va venir avec quel athlète? On aura 2-3 gros stars, puis ce sera tout. Le sport aujourd'hui, on a l'impression qu'on va le sous-développer. Enfin, on a du mal à tirer les gamins vers les sports. Les budgets, ils diminuent. Le passeport, pareil, ça diminue. Enfin, ça devient n'importe quoi. On nous avait dit que ça allait être. On allait mettre le sport en avant, et au final, ben, je trouve qu'il n'est pas aussi mis en avant. Il y a toujours des sports qui sont invisibilisés dans les médias. Et pas des petits sports comme le basketball, pourtant j'aime bien, mais on le voit pas à la télé, il faut s'abonner sur des chaînes que personne ne regarde. Même le handball, hein, l'année dernière, je sais plus quand, il y a eu une Coupe du Monde où on a eu une finale sur TF1, une moitié là sur TF1 et une moitié sur TMC. Enfin, à un moment donné, même là, pour le sport féminin, on a eu la Coupe du Monde des clubs. Alors, c'était programmé le match de foot féminin. On a dégagé le match féminin. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter. Enfin, il faut remettre le sport vraiment en avant. Il faut redévelopper. Il faut aller attirer les jeunes. Des pépites, il y en a plein. Et dans 4 ans, il faudra refaire encore plus de médailles parce que c'est aux États-Unis, hein, donc ça va être compliqué. Hein.
Ah oui, ça sera pas la même chose. Bon, évidemment, Cyril, on partage hein, ton point de vue. On en a parlé d'ailleurs la semaine dernière. Vous pouvez retrouver le podcast des Grandes Gueules du Sport sur cette baisse notamment du budget du ministère des Sports et cette histoire de passeport hein, qui n'est plus disponible pour les 6-13 ans désormais. Bon, ça va peut-être changer.
Mais dont le montant voilà. A été augmenté pour ceux qui en bénéficient oui. Encore.
Merci Marie Barsac.
Ben non, mais... Oui, c'est en effet en préparant l'interview avec Marie Barsac que je l'ai appris. Mais encore une fois, Marie Barsac, elle a eu le courage de répondre que ok, on le supprime pour les 6-13 ans, mais on le renforce pour les 14-18 ans et on s'est rendu compte
mais
que
le sport
c'est important. La version de la ministre, c'est que c'est important lorsqu'on est enfant, que c'est fondamental à l'adolescence.
Oui, mais la version de la ministre, elle te ressent son discours de politique qu'on lui a pris par cœur et qu'on lui dit bien de dire, mais le sport, on le sait tous, ça commence entre 6 et 13 ans. Tu vas pas te découvrir d'un coup à 14 ou à 18 ans, te dire, ah ben finalement, ben là, oui, ok, mais ton passeport, il a augmenté. Mais quand tu veux commencer à 7-8 ans, que t'as pas accès, tu fais comment?
Voilà.
Moi, je veux bien qu'on gobe à chaque fois tous les discours politiques, mais à un moment donné, il faut aussi leur renvoyer la réalité du sport au quotidien.
Alors, juste un dernier mot de José sur l'appli RMC Direct Studio sur ce débat qui nous dit, vous nous gonflez avec les JO. D'ailleurs, je vais zapper et je reprendrai le cours de l'émission dans une demi-heure.
Non, donc,
José,
surtout pas.
José, tu peux revenir.
On a fini.
Voilà, José revient, hein, d'accord, n'hésite pas. Et n'hésite pas à nous laisser tes messages. Voilà, ça c'est pour José. Voilà,
hein, José, tu es le seigneur des anneaux.
Voilà, écoute, là, la chanson, là, voilà, ça c'est. Ça on adore, hein, Fred. On adore cette chanson.
Oui, on adore.
J'ai vraiment trouvé José Mauvais. Et cette musique à la fin, c'est vrai que. Au Club France, 700 fois par jour. Et 270 000 Marseillaises. Allez. Mais, tu sais quoi, si c'était à refaire, je signe.
C'est peut-être pas la dernière fois qu'on l'entendra dans les grandes gueules du sport sur RMC. Vous restez avec nous. Dans un instant, on va parler de l'OM. Roberto De Zerbi, PSGOM, sa citation cette semaine qui a fait parler, a-t-il raison, de banaliser un PSGOM. On en parle tout de suite sur RMC. À bientôt. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Simon Dutin, Marion Bartoli, Fred Le Canu. On tourne la page des Jeux Olympiques, on est d'accord?
On n'a pas le choix. Il n'y a pas le choix, on y va. La suite.
Ah ben là, on va y aller. Hein.
Dans un instant, les grandes gueules contre-attaquent. On va faire un point sur vos votes. Hein. Vous savez, elles nous ont proposé un débat. Et vous pouvez aller voter sur le compte X des grandes gueules du sport. Pour l'instant, eh bien, c'est comme sur le tatami. Fred Le Canu est en tête, 49%, avec son débat sur le sport français en danger. Ah bah oui, dès qu'il faut faire peur aux gens,
bah oui.
Ça fonctionne.
Ah, c'est pas moi qui fais peur. Hein. Moi, je fais que relater qu'est-ce qui se passe en vrai.
Pourtant, Simon voulait parler des stars françaises, Marchand, Mbappé, Wemby, 27%. Et juste derrière, Marion Bartoli, pour parler de ce transfert record d'Ekitike, 90 millions d'euros vers Liverpool. Voilà. Tout est encore jouable, bien sûr, mais il faut aller voter dès maintenant sur le compte X des Grandes Gueules du Sport. Juste avant, on va s'intéresser à la punchline GG, signée Roberto De Zerbi cette semaine.
RMC, la punchline GG.
Le Classico, en Italie, c'est Juve-Inter. Sur 10 rencontres, 4 victoires de l'Inter, 5 de la Juve et un nul. En France, PSG-OM. Sur 23 matchs, 19 victoires de Paris, 3 nuls et une seule victoire de l'OM. Pour moi, ce n'est pas un classique. Quand on joue contre le PSG, nous voulons gagner, nous voulons rivaliser. Mais la vérité, elle est là. Paris, la saison dernière, a été imbattable ou presque.
J'espère que Roberto De Zerbi, il a un peu plus d'énergie quand il parle à ses joueurs que Siri. Siri, il faut se réveiller, hein. Sinon, on va te remplacer par une autre IA, attention.
Mais elle articule bien.
Elle articule bien, mais elle n'est pas dans le ton de l'émission, là. Il faut qu'elle soit un peu plus punchy, Siri, parce qu'il y a des IA qui arrivent beaucoup plus performantes. Attention. Nous aussi, d'ailleurs, il faut qu'on se méfie. Hein. On revient sur la punchline donc, de Roberto De Zerbi. Pour moi, ce n'est pas un classique, ce OM-PSG. L'entraîneur de l'OM a-t-il raison de banaliser ce match ? Oui ou non ? Fred ?
Non.
Mario Bartoli.
À mon grand regret, la mort dans l'âme, oui.
Simon Dutin.
Non.
Alors Marion, t'écoute. Tu es la seule à dire oui, il a raison.
Bah, il a raison parce qu'effectivement, et ça a été rappelé par notre ami Siri, quand on voit les résultats, quand on voit la différence de budget, quand on voit la différence ou simplement de niveau de jeu affiché depuis maintenant beaucoup de saisons par le PSG et l'OM, ce n'est plus un classique comme il était auparavant, où c'était équilibré, où il y avait deux clubs où vraiment n'était pas capable d'annoncer le résultat avant le match. Et que là, même si je suis une fervente supportrice de l'OM, bien évidemment, c'est que c'est quasiment mission impossible aujourd'hui d'aller chercher le PSG. Alors oui, le PSG rentrait dans une autre galaxie, comme le Real, comme Liverpool, comme ces immenses clubs d'Europe, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ont été capables d'aller chercher la Ligue des Champions cette année. Donc non, pour toutes ces raisons, pour moi ce n'est plus un classique. Pour moi, quasiment le match qu'attendent les supporters aujourd'hui de l'OM, c'est l'Olympico, qui a un choc très important dans une saison. C'est éventuellement le clash dans le sud avec Nice ou Monaco, mais oui, alors ça reste un match de Ligue 1, il faut le jouer, mais ce n'est plus le match à noter sur le calendrier avec d'abord aussi parce qu'il y a les supporters qui se déplacent plus, donc ça aussi ça rend, je pense, tout ce qu'il y avait autour du match et donc l'excitation pour le match un petit peu moins importante parce qu'il n'y a plus le déplacement des supporters sur les classiques. Mais pour moi, non, ce n'est plus le grand rendez-vous de l'année parce qu'il y a trop d'écart tout simplement entre les deux clubs et qu'aujourd'hui, l'Olympique de Marseille, au mieux, peut finir que deuxième. Alors même si vous allez me sortir qu'une fois, le PSG, effectivement, n'a pas remporté le championnat, mais ça a été totalement anecdotique et qu'ils peuvent viser un titre comme par exemple la Coupe de France, aller chercher un trophée comme la Coupe de France. Mais ils ne peuvent plus rivaliser, on n'est plus dans la même galaxie. L'Olympique de Marseille n'est plus dans la même galaxie que le PSG aujourd'hui.
Fred, t'es pas d'accord avec Marion ?
Non, je suis pas d'accord parce que cette opposition, elle a été créée il y a maintenant quand même quelques années, depuis les années 80 et de manière artificielle d'ailleurs, hein, cette opposition entre Paris et Marseille, c'est le storytelling, c'est l'histoire, c'est ancré désormais et ça dépasse aussi la pure dimension sportive, c'est-à-dire que le classique Paris-Marseille sera toujours OM-PSG, sera toujours au cœur de l'actualité, au cœur des articles de presse, au cœur de la vie des gens. En revanche, la volonté de le descendre d'un point de vue de Marseille, c'est peut-être aussi, comme il y a eu à un moment donné le besoin de se retirer et de sortir un peu de Marseille pour se ressourcer et s'éviter des dimensions un peu négatives, des pressions trop importantes. Moi, j'y vois plutôt la volonté de redescendre cette histoire-là pour se recentrer sur la performance sportive. Moi, je vois plus une intention de descendre les enjeux pour qu'il y ait moins de pression.
De dégonfler la pression autour de ce rendez-vous.
Et de dire, calmez-vous avec le classique. On va déjà essayer d'avoir une équipe qui soit hyper performante plutôt que de parler que de classique et d'opposition avec un club qui aujourd'hui, et là je rejoins Marion, elle est au-dessus du lot, c'est le Pogacar du truc, quoi. Donc à un moment donné, arrête de courir derrière Pogacar, deviens toi-même, et c'est peut-être en étant moins sous la pression qu'on va y arriver.
T'es pas d'accord, Marion, tu disais ?
Non, je suis pas d'accord parce que
pour qui y a un classique ? Marion, t'as le droit.
Non mais j'adore Fred, mais pour qui y a un classique ? Et ça a été rappelé par De Zerbi. Et ça a été rappelé par De Zerbi, il faut qu'il y ait une vraie rivalité. Aujourd'hui, il n'y a pas de rivalité entre le PSG et l'OM. Il n'y a pas de rivalité sur le plan sportif. Il y a la guéguerre de oui, tu supportes là ou tu supportes là.
Il y a une rivalité un peu culturelle, Marion, c'est ça.
Mais la rivalité, si tu veux, c'est de se dire qu'auparavant, bah, quand tu es supporter de l'OM, tu es à vie et à jamais le Paris Saint-Germain et inversement. Mais pour ça, il faut qu'il y ait parfois l'un qui gagne et parfois l'autre. Tu ne peux pas être à 19 victoires pour l'un, 3 nuls et une victoire pour l'autre. Si tu veux, ça pour qu'il y ait une rivalité, il faut qu'il y ait un storytelling qui indique une rivalité.
Ah, je te rappelle quand même que le plus grand nombre de maillots de l'Inter a été vendu à Marseille. Hein.
Bah oui, bien évidemment, parce qu'à vie,
ils en ont fait d'ailleurs, les gars, les oreilles de l'Inter. Oui.
À vie, c'est comme ça, c'est atavique. À vie, un supporter de l'OM détestera le PSG, mais c'est pas pour ça que non. Et aujourd'hui, alors les choses peuvent changer. Hein. À un moment donné, Qatar peut finalement se retirer du club, peut enlever son argent, ça peut devenir plus un club État et ça peut être plus équilibré en termes de budget. Peut-être que dans 10-15 ans, ça redeviendra une rivalité. Mais aujourd'hui, ce n'est plus une rivalité, malheureusement. Et je le dis, la mort dans l'âme. Hein. Vous connaissez mon attachement pour l'Olympique de Marseille. Mais il faut être aussi réaliste, il faut faire preuve de bon sens.
Simon.
Je suis absolument pas d'accord parce que le foot, si c'est un sport universel, tu sais, tu te rends compte que pour les gens qui aiment le foot c'est très important et ça dépasse largement le cadre des résultats de leur club. Je suis bien placé pour le savoir puisque étant de Bordeaux, je continue de suivre les résultats des Girondins et lorsque tu te promènes dans les centres d'entraînement, tu vois les gens qui sont là. Pour beaucoup de gens, l'actualité de leur club de foot, c'est ça représente une immense partie de leur horizon culturel, social, affectif, parfois amoureux. Et les gens s'intéressent à leur club, même au-delà des résultats. T'as qu'à demander aux habitants de Turin si et les supporters du Torino s'ils attendent pas avec impatience le match contre la Juventus, bien que le Torino, bon, immense club de l'histoire du foot italien, mais qui ne gagne plus rien depuis 30 ou 40 ans. Demande aux supporters du Torino s'ils attendent pas avec impatience le derby contre la Juve. Entre 99 et 2013, 14 ans d'affilée, l'Atlético n'a jamais battu le Real en Liga. Demande aux médias espagnols et aux supporters des deux clubs si ce match n'avait pas de l'importance pour eux. L'an dernier, l'OGC Nice est allé battre le Paris Saint-Germain 3-1 au Parc des Princes. Est-ce que tu penses que la saison qui s'annonce, on va attendre un petit peu plus Paris Saint-Germain au OGC Nice que Paris Saint-Germain Olympique de Marseille? Quand bien même Nice aurait plus de chance, sait-on jamais, de remporter une nouvelle fois cette rencontre. Le foot, ça dépasse le cadre des résultats, le cadre de la rivalité. Et PSG Marseille, qu'on le veuille ou non, c'est le trésor de la programmation de notre Ligue 1. On s'étouffe pas par ailleurs avec des chocs qu'on attend toute la saison. Marion a raison de rappeler que ces dernières années l'Olympico OM, OL a donné des matchs souvent ultra spectaculaires, des matchs à rebondissement, du spectacle, alors spectacle je le dis avec des guillemets dans les tribunes, mais des rivalités. Ça a créé un petit peu l'événement. Mais qu'on le veuille ou non, encore une fois, même si De Zerbi sort un petit peu les parbattages et prépare éventuellement à l'avance des éventuelles défaites contre un PSG qui paraît plus fort que jamais, PSG-Marseille et Marseille-PSG, ce sera une nouvelle fois les deux affiches les plus suivies, les plus commentées, les plus attendues et les plus débriefées de notre saison en Ligue 1. Donc De Zerbi, évidemment, il fait un petit peu de la com, il prépare la saison et en renard alors qu'il est, il n'est pas interdit de penser qu'il il va mettre toutes les chances de son côté et que dans un coin de sa tête il se dit moi je les ai j'ai appris après ma première saison, je suis en train de construire mon effectif et cette année on va les taper.
Alors après il fait de la com peut-être auprès des joueurs, auprès des supporters, j'aimerais bien savoir comment c'est perçu. Alors on a Joe qui est au 32-16 avec nous ce matin. Bonjour Joe.
Salut l'équipe, ça va?
Ça va. Bonjour, tu es supporter Joe. De l'OM?
Ouais, moi je suis bon, j'habite à Paris mais je suis supporter de Marseille depuis ma tendance.
D'accord. Donc ça m'intéresse de t'entendre sur ce débat-là.
Oui. Big up à Fred parce que d'ailleurs je suis d'accord avec lui et je suis la personne qui avait été invitée par JT lors de sa dernière dans le studio d'RMC. Voilà. Je vais vous féliciter parce que j'ai passé un très bon moment.
Ah ben bah, super Joe.
Donc je vous remercie.
Écoute, avec plaisir, avec plaisir. Toi tu n'as pas tourné la page de ton passage dans les GG, je l'espère. concernant Roberto De Zerbi et sa déclaration, toi supporter de l'OM, c'est intéressant de t'entendre là-dessus. Comment tu l'as perçu?
Ben pour le coup, je suis vraiment pas d'accord avec Marion parce que pour moi, c'est un classique, ça reste un classique, ça veut dire que c'est au-delà du foot en fait, c'est au-delà du niveau entre Paris et Marseille.
Bien sûr.
C'est-à-dire que moi je me rappelle moi depuis que je suis petit, voilà, d'ailleurs j'habite à Paris, c'est-à-dire que je me prends souvent la tête avec mes amis qui sont parisiens lors de ces matchs-là et je pense que pour moi ça dépasse tout, c'est comme si je me rappelle il y a une période Barcelone il dominait le football espagnol, Mourinho quand il a été nommé entraîneur, il a pas dit il y a plus de classico. Il est arrivé, il s'est dit je vais être celui qui va mettre un terme justement à cette dominations Barcelone. Mais ouais. C'est la même chose, Marion.
Palmarès du Real et palmarès de l'OM, s'il te plaît, Joe. Même si j'adore l'OM et que je suis fan absolu de ce club, c'est si tu veux, pour qu'un classique, pour qu'il y ait encore une fois. Alors, bien sûr qu'on va tous le regarder, parce que oui, c'est peut-être plus intéressant que de regarder le 17e contre le 20e de Ligue 1. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on, le résultat, à moins d'un miracle absolu et qu'il se passe quelque chose d'absolument extraordinaire, le résultat, on le connaît d'avance. Et moi, je suis désolée, ça, quand même, ça enlève du sel au match que tu vas regarder. Mmh. Quand tu sais très bien que tu te dis, putain, mais tu pries, tu dis, putain, pourquoi que j'en prends déjà pas trois à la première mi-temps et qu'on soit pas totalement ridicule. Alors moi, je veux bien qu'on se dise, ouais, dans le classique, on va les taper le Paris, on va les taper, mais ça fait 19 défaites qu'on prend et 3 matchs nuls pour seulement une victoire. Faut aussi être réaliste sur les chiffres, si tu veux. Sur les 23 derniers matchs.
Mais Marion, donc,
c'est pas grave, parce qu'avant le début du match,
t'as envie de voir le vélodrome incandescent, t'as envie de voir les fumigènes, t'as envie de voir les banderoles, t'as envie de voir tout le décorum autour de ça, t'as envie de voir l'ambiance. Ok, ça se termine à 0-3, bon, ben tant pis, rideau, Paris est trop fort, mais t'as envie de sentir l'atmosphère, t'as envie de sentir l'ambiance qui monte, t'as envie de voir l'avant-match, de regarder comment se comportent les joueurs, les entraîneurs sur le banc, les compositions d'équipes, t'as envie d'y croire, voilà, même si au final,
le match ne... Dans les années 80, c'est-à-dire moi j'ai grandi, j'ai été bercé à Paris-Marseille, c'est une rivalité, c'est un classique, et c'est limite le plus gros match du foot français. C'est un match qu'on attend dans la saison, il y a deux dates qu'on attend, on peut perdre tous les matchs sauf cela. Et dans l'esprit, il faut que ce soit ça. Et finalement, même si depuis 10 ans, les Qataris sont arrivés à la tête du PSG et ils dominent les classiques entre Paris et Marseille. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les joueurs qui sont là, c'est des nouveaux joueurs. Donc on peut leur transmettre un nouveau discours. C'est pas des joueurs qui ont l'habitude de se faire taper depuis 10 ans par le PSG, c'est des nouveaux joueurs, un nouveau discours. Et pour moi, si De Zerbi, c'est un vrai leader dans l'âme, un meneur de vestiaire, c'est pas le discours qu'il devrait avoir face aux médias. Et pour moi, déjà, depuis la saison dernière, ça montre un aveu de faiblesse. Quand déjà, en termes d'émotion, pour moi, Marseille, c'est trop pour lui. Il y a trop de pression. Lui, c'est un mec émotionnel.
Attends, il a mis Rabiot comme capitaine contre le PSG. Tu peux pas dire ça.
Mais ça, c'était un coup parce que Rabiot, il s'est insulté.
Oui, mais tu peux pas dire qu'il s'en fout.
Donc, je vais marquer le coup. C'est... Pour moi, c'est plus un coup de com' qu'autre chose. Mais dans l'idée sur la saison, quand il y a eu la pression, ben, il a été obligé de prendre son équipe, de partir en Italie, parce qu'au final, ben, il y a une pression et peut-être qu'il n'arrive pas à lui à faire la parabole. En fait.
Non, c'était pour que les joueurs puissent mieux la gérer.
Alors,
c'est le problème du microcosme de Marseille, il faut le connaître pour. Pour le connaître un tout petit peu, c'est que quand ça monte trop en pression, notamment au niveau du supporter et de la commanderie, effectivement, pour que les joueurs qui au départ sont pas forcément tous marseillais et ont moins l'habitude de cette gestion de la pression, les écarter de ça pour se recentrer sur le sportif, et il a eu raison, hein. On a vu sur la fin du championnat comment il a géré ses matchs, donc il s'est écarté de ça pour justement se recentrer sur le sportif. Il faut comprendre aussi que dans l'effectif aujourd'hui de l'Olympique de Marseille, on n'est pas dans les années 90 où les joueurs étaient totalement baignés et imprégnés de cette culture-là, du cachet, du classique, il fallait absolument battre le Paris Saint-Germain. Ouais. Aujourd'hui, tu pars pour un joueur étranger qui arrive à Marseille. Oui, le classico, oui, on a vaguement entendu parler, mais c'est quand même moins intégré dans l'ADN d'un joueur qui a grandi à Marseille, qui est un minot de Marseille, qui a bien évidemment envie de taper le Paris Saint-Germain quand il le voit sur le calendrier.
Bon, on va remercier Joe, en tout cas, d'être passé, supporter de l'OM, et tu reviens quand tu veux en studio, hein, n'hésite pas la prochaine fois pour réagir.
Bravo, Joe.
Merci beaucoup. Et je suis sûr que Marion Bartoli, le week-end du 21 septembre, parce que c'est la date prévue pour Marseille PSG, elle va y croire avant le match.
Mais bien sûr, je vais y croire. Mais j'y crois toujours.
Allez, les grandes gueules qui reviennent dans un instant avec les GG contre-attaque. Vous avez encore quelques minutes seulement pour voter pour votre débat préféré. Dans une minute, le vainqueur sera déclaré vainqueur. Voilà, à tout de suite. J'avais pas autre chose. Allez, à tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet,
Fred Le Canut, Simon Dutin, Marion Bartoli. Ce matin, dans un instant, les GG seront à Singapour où ont commencé les championnats du monde de natation avec Léon Marchand, superstar. On l'entendra d'ailleurs, Léon Marchand. Est-ce qu'il peut être encore plus fort? 32-16 pour nous rejoindre dès maintenant. Mais d'abord, vous le savez, à cette heure-là, les GG prennent les commandes de l'émission.
RMC, les GG contre-attaque.
Les grandes gueules du sport qui vous ont proposé un débat, c'est vous qui avez choisi votre débat préféré. Le résultat, troisième et dernière place pour Marion Bartoli pour son débat autour des Kitty qui est 26%. Juste devant, pour parler de Marchand, Mbappé, Wemby, la triplette infernale, Simon Dutin, 27%. Contrat le grand vainqueur.
Contrat rempli, on gagne pas, on finit pas dernier.
Vous battez quand même, vous êtes battu sur un hippon là, 47%, il écrase tout. Fred Le Canut, pour son débat autour du sport en danger, le sport français en danger, c'est ça.
C'est ça, devons-nous avoir peur ? Devons-nous avoir peur pour le sport français ?
La France a peur.
Quand le tissu associatif est mis en difficulté, on l'a dit tout à l'heure, avec un passeport, il y a un accompagnement pour les plus jeunes qui malheureusement, pour les raisons qu'on connaît, n'existe plus. Dans un système aussi avec les clubs qui sont basés sur les bénévoles, quand aujourd'hui le bénévolat s'est donné alors que la société fonctionne avec le verbe prendre, est-ce qu'on doit avoir peur aussi pour le sport français quand dans le fitness la TVA est toujours la même que pour les autres et que ça ne permet pas à des gens d'acheter des abonnements plus que qu'autre chose qu'un produit de consommation courant? Est-ce qu'on doit avoir peur pour le sport français lorsque les droits télévision sont tellement compliqués à comprendre dans le monde du football que le club de l'Olympique Lyonnais m'a appris qu'on pouvait compter jusqu'à 200 puisque c'est 200 millions qu'il faut trouver pour le mettre encore en vie? Est-ce qu'on doit avoir peur pour le sport français quand les plus grands rendez-vous comme Roland Garros n'ont pas vu de victoire française depuis Yannick Noah, ou quand le Tour de France n'a pas vu de victoire française depuis Bernard Hinault, ou que tout simplement l'équipe de France de rugby a du mal à se sacrer, à se sacraliser autour d'un projet pour aller de l'autre côté de la planète parce que tout le monde est pris par d'autres objectifs? Est-ce qu'on doit avoir peur pour le sport français quand les Jeux Olympiques n'arrivent pas à créer une histoire en deuxième rideau pour le public et pour les gens tout simplement? Voilà ma grande question et ma réponse, c'est qu'on doit avoir une vision holistique, c'est-à-dire qu'on doit arrêter d'être dans des silos. Chacun pense à sa vision personnelle. Le sport doit redevenir comme ce qu'il était au départ, universel. On doit penser ensemble pour arrêter d'avoir peur ensemble.
Oh là là, j'avais l'impression d'entendre François Hollande, moi président, là. Est-ce qu'on doit avoir peur? Oui. Est-ce qu'on doit avoir peur? Magnifique.
T'as vu, il a fait un mic dropping
et
avec le stylo,
là.
Il a fait un pêche et tout donné.
Là, je peux partir en plus tout seul.
L'approche holistique et la traduction directe de holistic approach. Je suis pas certaine que tout le monde ait compris, mais on va y arriver.
Eh ben, je vais te dire un truc tout simple. Tu sais quoi? Je vais te faire un parallèle avec le monde médical. Aujourd'hui, t'as des médecins pour tous les symptômes de tous les espaces de ton corps. Mais t'as personne qui est capable de t'aider à aller bien tout seul dans l'ensemble. Voilà, j'ai perdu Simon.
Je suis admiratif, au contraire, j'ai jamais vu quelqu'un bosser sa contre-attaque comme ça.
Mais il était sûr de gagner déjà.
Première. Ouais.
Non, mais c'est sinon, si t'as les médecins.
Il y avait des médecins. Super, et t'as passé deux heures avec
les médecins. Je suis là,
je gère des papiers. Ah, c'est remarquable.
Je pourrais répondre à la question, mais non, mais t'as les médecins généralistes qui t'ont aidé au quotidien. C'était le métier de mon papa pendant toute
la carrière
tennistique, prenne le dessus. Malheureusement, les déserts médicaux aujourd'hui, dû à la difficulté de ce métier-là au quotidien, empêche les jeunes médecins qui sortent des universités de vouloir se plonger.
Et c'est ce que je te partage, Marion, c'est d'avoir une vision généraliste pour avoir une réponse généraliste et pas qu'une réponse de silo.
Mais on peut répondre du coup à la question?
Très vite, on n'aurait plus beaucoup de temps là, je te cache pas.
Mais encore une fois, on en a beaucoup débattu l'année dernière avant les Jeux Olympiques et même si je ne suis pas en train de baver devant les Américains et de penser que tout ce qu'ils font c'est absolument génial et fantastique, mais force est de constater, au vu de la manière dont ils ont la capacité dans quasiment tous les sports de sortir des champions, qu'effectivement leur approche de mettre le sport au sein de l'école en étant une matière à part entière avec son... leur capacité à mettre le sport, même quasiment devant les autres matières, et donc de créer cette habitude depuis tout jeune, mais vraiment tout jeune, de l'appartenance à son école, de l'appartenance à la défendre ses couleurs, à défendre son maillot, d'être en équipe, au vu de tous les sports qu'ils ont. Effectivement, je crois que c'est une des réponses, même si certainement ce n'est pas la seule, mais une des réponses sur lesquelles il faut vraiment se pencher de manière beaucoup plus approfondie que ce qui a été fait aujourd'hui. Et on voit à quel point le sport est bâclé dans l'école aujourd'hui, à quel point les enfants on leur rabâche qu'il faut être effectivement très bon en maths, en histoire, en philo, en tout ce que vous voulez sauf en sport, parce que le sport ne compte pas. Et je crois que cette approche-là globale doit être absolument changée, parce que comme l'a dit Fred, on peut aller pousser la porte d'un club associatif qui va vous aider à vous redonner confiance en vous, vous permettre de vous épanouir. Mais je crois que ça peut être aussi largement fait au sein de l'école au quotidien pour donner la chance à beaucoup plus de jeunes, justement, de créer ces bonnes valeurs depuis le début, parce que c'est l'ossature du développement général d'un enfant dans ces jeunes années.
Alors, quand même, là, c'est très important. Qu'est-ce que holistique veut dire ? Ça, c'est ce qui relève de l'holisme. Voilà, on est bien plus avancé maintenant.
Il a été sur Google.
ça ressemble déjà à l'Olympisme.
Non, mais va dans le chat GPT. Mais démarche holistique, tu vas voir, il va donner plus de renseignements.
Je suis battu. Simon aussi, là, on l'entend plus. Allez, on revient dans un instant, mais excellente contre-attaque. Bravo. Et alors là, moi, je pense que dans quelques années, le ministère des Sports, ça lui tend les bras, hein, Fred Le Canu.
Je suis ouvert à toute proposition.
Allez, restez avec nous dans un instant. Les grandes gueules du sport reviennent. On va parler d'un Français qui gagne, Léon Marchand, qui est au championnat du monde de natation. On va l'entendre d'ailleurs parce qu'il s'est exprimé ce matin. Restez avec nous sur RMC, à tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.